Les deux Fremen qui venaient du bas des rochers, d'un bond léger, gagnèrent un entablement et s'immobilisèrent devant Paul. Celui qui avait le visage sombre déclara
« Tout est en sûreté, Mouad Dib. Nous ferions bien de descendre à présent.
C'est juste. »
Gurney remarqua le ton particulier de l'homme.
Il ordonnait et demandait dans le même temps.
C'était celui que l'on nommait Stilgar, une autre figure légendaire parmi les Fremen. Paul se tourna vers l'autre homme qui portait son fardeau noir.
Corba, qu'a-t-il dans ce paquet?
Ce fut Stilgar qui répondit.
C'était dans la chenille. C'est une balisette avec les initiales de ton ami. Je t'ai souvent entendu parler du talent de Gurney Alec à la balisette.
Gurney regarda attentivement Stilgar, la frange de barbe noire qui apparaissait au-dessus du masque, les yeux de faucon, le nez aigu.
Votre compagnon pense juste, monseigneur, dit Gurney. Merci, Stilgar.
Stilgar fit signe à Corba de remettre le paquet à Gurney, puis dit
« Remerciez votre seigneur duc. C'est lui qui vous a fait admettre parmi nous. »
Gurney prit la balisette. La dureté qu'il avait perçue sous ses paroles le rendait perplexe. L'homme avait comme un air de défi, et Gurney se demanda si cela pouvait provenir d'un quelconque sentiment de jalousie. Il était pour Stilgar Gurney Alec, un homme qui avait connu Paul longtemps avant Arrakis, un vieux compagnon que Stilgar ne pourrait jamais espérer devenir vraiment.
« J'aimerais que vous soyez deux amis, » dit Paul.
« Stilgar le Fremen est renommé, » dit Gurney. « Je serais honoré d'avoir pour ami un tueur d'Arkonnen. »
« Toucheras-tu les mains de mon ami Gurney Alec, Stilgar ?» demanda Paul. Lentement, Stilgar tendit la main, toucha celle que lui offrait Gurney, une main que l'épée, année après année, avait rendue calleuse.
« Il en est peu qui n'aient pas entendu prononcer le nom de Gurney Alec, » dit-il.
Puis il se retourna vers Paul.
« La tempête arrive sur nous. »«
Allons, » dit Paul. Stilgar prit la tête, et par un itinéraire qui serpentait entre les rochers, ils atteignirent l'entrée basse de la grotte. Dès qu'ils furent à l'intérieur, des hommes se précipitèrent pour sceller l'orifice. La clarté des brilleurs révélait une vaste salle en forme de dôme. De l'autre côté d'une terrasse naturelle, s'ouvrait un passage, et c'est dans cette direction que s'engagea Paul, suivi de Gurney, tandis que les autres se dirigeaient vers un second couloir, juste en face de l'entrée de la grotte. Paul traversa l'antichambre et pénétra dans une pièce au mur tendu de draperies, au ton de vin sombre. « Nous pourrons être tranquilles ici pendant un moment, » dit-il. « Les autres respecteront mon... » Une cymbale d'alarme claqua dans la grotte. Il y eut des cris, des froissements d'armes. Paul se retourna, retraversa l'antichambre et surgit sur la terrasse rocheuse. Gurney était derrière lui, l'épée au clair. Sur le sol de la grotte, des silhouettes entremêlées luttaient sauvagement. Il ne fallut qu'un bref instant à Paul pour analyser la scène, séparer les robes Fremen et les burkas des autres vêtements. Ses sens, que sa mère avait affinés au long des années, lui révélèrent un détail significatif. Les Fremen se battaient contre des hommes qui portaient la robe des contrebandiers, mais qui étaient groupés trois par trois, formant le triangle lorsqu'ils étaient acculés. Cette tactique était la marque des Sardaukar de l'Empereur.
Tout à coup, un Fedaikin aperçut Paul et lança le cri de bataille qui se répercuta dans la grotte.
« Mouad Dib ! Mouad Dib ! »
D'autres yeux avaient relevé la présence de Paul. Un couteau noir jaillit vers lui. Il se déroba et entendit la lame claquer sur le rocher derrière lui. D'un coup d'œil, il entrevit Gurney qui la ramassait. Les triangles des attaquants étaient repoussés maintenant. Gurney leva le couteau devant les yeux de Paul et lui montra la spirale jaune de l'impérium et le lion à crinière dorée, aux yeux à facettes, sur le pommeau. Des Sardaukar. Paul s'avança sur la terrasse. Il ne restait que trois Sardaukar maintenant. Des corps sanglants étaient dispersés par toute la grotte.
« Cessez le combat » lança-t-il. « Le duc Paul Atreides vous ordonne de cesser le combat !»
Les combattants hésitèrent.
« Vous, les Sardaukar !» reprit Paul.
Sur quels ordres menacez-vous la vie d'un duc régnant ?
Puis, comme ses hommes poursuivaient leur attaque, il lança de nouveau
« Cessez, j'ai dit !»
L'un des Sardaukars se redressa.
« Qui dit que nous sommes des Sardaukars ? » demanda-t-il.
Paul prit le couteau des mains d'Alec et le brandit.
« Ceci. » « Et qui dit alors que vous êtes le duc régnant ?»
Paul tendit la main vers les Fedaikin.
« Ces hommes disent que je suis le duc régnant. Votre propre empereur a remis Arrakis à la maison des Atréides. La maison des Atréides, c'est moi. »
Le Sardaukar demeura silencieux alors. Paul l'étudia. L'homme était de haute taille, les traits plats, avec une cicatrice pâle sur la joue gauche. Son attitude trahissait la colère et le doute, mais par-dessus tout, cet orgueil sans lequel un Sardaukar ne pouvait être complet. Cet orgueil qui était comme un vêtement. Paul se tourna vers l'un de ses lieutenants.
« Corba, comment se fait-il qu'ils aient des armes ?»«
Ils avaient dissimulé des couteaux à l'intérieur de leur distille. »
Le regard de Paul courut sur les morts et les blessés avant de revenir sur Corba. Les mots étaient inutiles. Le Fedaikin baissa les yeux.
« Où est Shiny ? » demanda-t-il.
Et il attendit la réponse, le souffle suspendu.
« Stilgar l'a placé à l'écart, » dit Corba.
Il désigna le second couloir, puis à son tour, regarda les morts et les blessés.
« Je me considère comme responsable de cette faute, Muad'Dib. »
« Combien y avait-il de Sardaukars, Gurney ?» demanda Paul.
« 10. »
Avec souplesse, il sauta de la terrasse et s'avança jusqu'à distance d'épée du Sardaukar qui avait parlé. Il sentit que les Fedaikin se tendaient. Il leur déplaisait de le voir s'exposer ainsi. Il devait tout faire pour empêcher cela, parce que le vœu des Fremen était de conserver la sagesse de Muad'Dib. Sans se retourner, Paul demanda « Quelles sont nos pertes ?»«
4 blessés, 2 morts, Muad'Dib. »
Paul décela un mouvement au-delà des Sardaukars. Shiny et Stilgar se tenaient sur le seuil de l'autre passage. Son regard revint au Sardaukar, plongea dans les yeux étrangers.
« Toi, quel est ton nom ?»
L'homme se raidit. Ses yeux allèrent de droite à gauche.
« Ne t'y risque pas, » dit Paul.
« Il est évident que l'on vous a ordonné de chercher et de tuer Muad'Dib.
Je suis certain que c'est vous qui avez proposé d'aller chercher de l'épice dans le désert profond. »
Il perçut derrière lui l'exclamation étouffée de Gurney et un faible sourire vint jouer sur ses lèvres. Le sang afflua au visage du Sardaukar.
« Ce que tu vois devant toi est plus que Muad'Dib, » reprit Paul.
« 7 d'entre vous sont morts pour 2 des nôtres.
3 pour 1.
Ce n'est pas mal contre des Sardaukars, hein ?» L'homme se tendit, puis recula devant le mouvement menaçant des Fedaikin.
« Je t'ai demandé ton nom, » dit Paul, et il se servit de la voix.
« Dis-moi ton nom !»«
Capitaine Aramsham, Sardaukar impérial !»
lança l'homme. Il regarda Paul, surpris, désemparé, bouche bée. Pour lui, cette grotte n'avait été jusque-là qu'un repère barbare, mais il était en train de changer d'idée.
« Capitaine Aramsham, » dit Paul, « les Harkonnen seraient prêts à donner beaucoup pour apprendre ce que vous savez maintenant.
Et l'empereur, quant à lui, que ne donnerait-il pas pour savoir qu'un Atréide vit encore en dépit de sa traîtrise ?»
Le capitaine jeta un regard rapide aux deux hommes qui restaient avec lui. Paul pouvait presque voir tourner les pensées dans sa tête. Les Sardaukars ne se rendaient jamais, mais il fallait que l'empereur apprenne cette menace. Il se servit à nouveau de la voix pour dire «
Rendez-vous, capitaine !»
L'homme qui se trouvait à gauche du capitaine bondit tout à coup sur Paul et rencontra l'éclair du couteau de son capitaine. Il s'effondra sur le sol, l'arme plantée dans la poitrine. Le capitaine se tourna alors vers son dernier compagnon.
C'est à moi de décider ce qui sert le mieux Sa Majesté, dit-il.
Compris ? Les épaules de l'homme s'affaissèrent.
Lâche ton arme, dit le capitaine.
L'homme obéit. Le capitaine se tourna de nouveau vers Paul.
Pour vous, j'ai tué un ami. Ne l'oublions jamais.
Vous êtes mes prisonniers, dit Paul. C'est à moi que vous vous rendez. Que vous viviez ou que vous mouriez, cela n'a aucune importance. Puis il fit signe à un des gardes d'emmener les prisonniers et se tourna vers Corba.
Muad'Dib, dit son lieutenant, j'ai failli à ma tâche.
Non, c'est moi, Corba. J'aurais dû te mettre en garde. À l'avenir, lorsque nous aurons affaire à des Sardaukars, souviens-toi de cela. Souviens-toi aussi que chacun d'eux possède un ou deux faux orteils, qui, avec certains dispositifs placés dans leur corps, peuvent constituer un émetteur. Ils ont également plus d'une dent fausse. Dans leurs cheveux sont dissimulés des spires de chigavril, si fines qu'il est difficile de les déceler, mais assez solides pour permettre d'étrangler un homme et même de lui couper la tête. Avec les Sardaukars, il faut sonder, examiner centimètre par centimètre et couper le moindre poil. Même après cela, tu peux être certain de n'avoir pas tout découvert. Il regarda Gurney, qui s'était approché à son tour.
En ce cas, dit Corba, nous ferions mieux de les tuer.
Paul secoua la tête.
Non, je veux qu'ils s'enfuient.
Sire, souffla Gurney.
Oui,
il a raison. Il faut les tuer immédiatement. Détruire toute preuve de leur présence ici. Vous avez humilié les Sardaukars impériaux. Quand l'empereur apprendra cela, il n'aura de cesse de vous faire mourir à petit feu.
Il est douteux que l'empereur en ait jamais la possibilité, dit Paul, lentement, froidement. Quelque chose s'était passé en lui un instant auparavant, tandis qu'il affrontait les Sardaukars. Une somme de décisions s'était formée.
Gurney, reprit-il,
les hommes de la guilde sont-ils nombreux dans l'entourage de Rabban? Gurney se raidit et ses yeux se rétrécirent.
Votre question ne fait pas de...
Sont-ils nombreux? La voix de Paul était cinglante.
Arrakis grouille d'agents de la guilde. Ils achètent l'épice comme si c'était la chose la plus précieuse de l'univers. Pourquoi croyez-vous que nous soyons risqués aussi loin dans le sud?
L'épice est la chose la plus précieuse de l'univers, dit Paul.
Pour eux, il se tourna vers Shiny et Stilgar qui s'approchaient.
Et c'est nous qui la contrôlons, Gurney.
Non, ce sont les Harkonnen.
Ce sont ceux qui peuvent détruire une chose qui la contrôle vraiment, dit Paul. Il tendit une main impérative pour prévenir toute réplique de Gurney, puis hocha la tête à l'adresse de Stilgar et de Shiny. Il prit le couteau Sardaukar dans sa main gauche et le tendit à Stilgar.
Tu vis pour le bien de la tribu, dit-il.
Pourrais-tu prendre le sang de ma vie avec ce couteau?
Pour le bien de la tribu, grommela Stilgar.
Alors sers-toi de ce couteau.
Tu me défies? Demanda Stilgar.
Si je te défiais, dit Paul, je le ferais sans armes et je te laisserais me frapper. Le souffle de Stilgar devint court.
Ozul!
S'exclama Shiny. Elle regarda Gurney, puis Paul. Alors même que Stilgar continuait de réfléchir au sens de ses paroles, Paul poursuivit. Tu es Stilgar, l'homme des combats. Quand les Sardaukars ont commencé à se battre ici, tu n'étais pas présent. Ta première pensée a été de protéger Shiny.
Elle est ma nièce, dit Stilgar. Si Tefe Daikin n'avait pu venir à bout de ses canailles,
pourquoi ta première pensée a-t-elle été pour Shiny? Demanda Paul.
Ce n'est pas vrai.
Ah, c'est à toi que j'ai pensé. Penses-tu alors que tu pourrais lever la main sur moi? Stilgar se mit à trembler et il murmura.
C'est l'usage.
L'usage veut que l'on tue les étrangers à Arrakis trouvés dans le désert et que l'on prenne leur eau comme un cadeau de Shai-Hulud. Pourtant, tu as accordé la vie à deux de ces étrangers une nuit, ma mère et moi. Comme Stilgar demeurait silencieux et tremblant, les yeux fixés sur lui, Paul poursuivit. Les usages changent, Stilgar. Tu les as changés toi-même. Stilgar baissa les yeux sur l'emblème jaune qui marquait le couteau qu'il tenait. Lorsque je serai duc dans Arrakine avec Shiny à mes côtés,
Crois-tu que j'aurai le temps de m'occuper de tous les détails concernant le siège Taber? Crois-tu que je pourrai penser aux problèmes particuliers de chaque famille?
Stilgar ne quittait pas des yeux le couteau.
Crois-tu que je veuille me couper le bras droit? Demanda Paul.
Lentement, Stilgar releva la tête, le regarda.
Crois-tu, dit Paul, que je veuille priver la tribu comme moi-même de ta force et de ta sagesse?
D'une voix basse, Stilgar répondit. Ce jeune homme de ma tribu dont je connais le nom, ce jeune homme, je pourrais le tuer en réponse à son défi, selon la volonté de Shai Hulud. Mais le Lihan al-Raib, je ne pourrais le toucher. Tu le savais lorsque tu m'as donné ce couteau.
Je le savais, dit Paul.
Stilgar ouvrit la main. Le couteau tomba sur le sol avec un bruit sonore.
Les usages changent, dit-il.
Shiny, fit Paul, rejoins ma mère. Qu'elle vienne nous retrouver avant.
Mais tu as dit que nous irions dans le sud, protesta Shiny.
Je me suis trompé. Les Harkonnen ne sont pas là. La guerre n'est pas là. Elle respira profondément, acceptant cela ainsi que toute femme du désert acceptait les obligations de cette vie qui se mêlait à la mort.
Je vais te confier un message pour les seules oreilles de ma mère, reprit Paul.
Dis-lui que Stilgar me reconnaît comme duc d'Arrakis, mais qu'il faut trouver un moyen pour que les jeunes hommes acceptent cela sans combat.
Shiny regarda Stilgar.
Fais ce qu'il dit, grommela ce dernier. Nous savons tous qu'il pourrait me vaincre, et je ne pourrais pas lever la main sur lui, pour le bien de la tribu.
Je reviendrai avec ta mère, dit Shiny.
Qu'elle vienne seule, dit Paul. L'instinct de Stilgar ne le trompait pas.
Je suis plus fort quand tu es en sûreté. Tu resteras au siège.
Elle voulut protester, mais se tut.
Sihaya, ajouta Paul, lui donnant le nom intime qui était le sien.
Puis, se tournant à droite, il rencontra les yeux brillants de Gurney. Depuis que Paul avait fait allusion à sa mère, les paroles qui s'étaient échangées s'étaient fondues en un brouillard pour Gurney.
Votre mère, dit-il.
La nuit du raid, Idaho nous a sauvés, dit Paul, qui était encore tout à Shiny.
Maintenant, nous...
Et Duncan Idaho, monseigneur?
Il est mort, en nous donnant le temps de fuir.
La sorcière est vivante, pensait Gurney.
Elle est vivante, celle pour laquelle j'ai juré vengeance. Et il est évident que le duc Paul ignore quelle créature lui a donné le jour.
Diablesse. Elle a livré son père au Harkonnen.
Paul regagna la terrasse. Il parcourut la grotte du regard et vit que les morts et les blessés avaient été emportés. Il eut alors une pensée amère pour le chapitre de la légende de Muad'Dib qui venait d'être écrit en ce lieu.
Je n'ai même pas tiré mon couteau, mais on rapportera qu'en ce jour, j'ai tué 20 Sardaukars de ma main.
Gurney suivit Stilgar. Il ne sentait plus le sol sous ses pas, ne voyait plus la lueur des brilleurs. Dans son esprit empli de fureur, il pensait « La sorcière vit, alors que ceux qu'elle a trahis ne sont plus que des ossements dans des tombes solitaires. Il faut que Paul apprenne la vérité sur elle avant que je la tue.